Contes et lectures. Carlo Ruexeguer.
Ce sont encore quelques histoires de Daniel Arms que je vais me faire le plaisir de vous conter dans différents petits textes un peu plus longs. Il y a un peu de tout et c'est toujours aussi sauté. La première de ces histoires s'intitule « Quand deux personnes jouent ». Quand deux personnes jouent aux échecs, j'ai comme l'impression que l'une va se faire rouler par l'autre, surtout si elle joue pour de l'argent. D'une façon générale, je déteste qu'on joue pour de l'argent. J'interdis de le faire en ma présence. Les joueurs de cartes, je les ferais fusiller. C'est sans contexte la meilleure méthode pour éradiquer les jeux de hasard. Plutôt que de taper le carton, il ferait bien mieux de se réunir pour se faire mutuellement la morale. Ouf, du reste, rien de plus ennuyeux que la morale. C'est plus passionnant de faire la cour aux femmes. Les femmes n'ont jamais cessé d'être l'objet de mon intérêt. J'ai toujours été très ému par une paire de jambes, particulièrement au-dessus du genou. Nombreux sont ceux qui tiennent les femmes pour des créatures vicieuses. Ah, selon moi, c'est absolument faux. Au contraire, il y a chez elles quelque chose de foncièrement agréable. Une jeune femme bien potelée, en quoi peut-elle être vicieuse? Inconcevable. Les enfants, c'est tout autre chose. On les dit innocents. Moi, j'estime que, même s'ils sont innocents, rien n'est plus répugnant qu'eux. Surtout quand on les fait danser. Je m'empresse de quitter tout endroit où il y a des enfants. Leonid Savielievitch les abomine aussi. Non sans mon influence, d'ailleurs. En général, tout ce qui sort de la bouche de Leonid Savielievitch, c'est d'abord moi qui lui l'ai dit un jour ou l'autre. Et pas seulement lui. Tout le monde est prêt à me voler, ne serait-ce que des bribes d'idées. C'est franchement marrant. Hier, par exemple, ne voit-il pas Kolievok à court pour m'annoncer qu'il est empêtré au possible dans les problèmes de la vie? Je lui ai donné deux ou trois conseils et il est reparti rayonnant de bonheur. On recherche mon aide. On répète partout mes paroles, on s'étonne de mes faits et gestes, sans que personne me paye quoi que ce soit. Sot que vous êtes, apportez-moi le plus d'argent possible, et vous verrez comme je serai aux anges. Koutchakov le menuisier. Il était une fois un menuisier. Koutchakov était son nom. Un jour, il sortit acheter de la colle de menuiserie. C'était un temps de verglas, les trottoirs étaient fort glissants. Le menuisier fit quelques pas, glissa et tomba en se fendant le front. Zut ! S'exclama le menuisier qui se releva aussitôt pour aller à la pharmacie. Il acheta un sparadrap et se le colla sur le front. Mais, à peine eut-il fait quelques pas dehors qu'il glissa de nouveau, tomba et se fendit le nez. « Fichtre !» s'exclama le menuisier, qui alla à la pharmacie acheter un autre sparadrap et se le colla sur le nez. Une fois dehors, il glissa encore, tomba et se fendit une joue. Il fallut bien retourner à la pharmacie et se coller un sparadrap sur la joue. « Écoutez, dit le pharmacien au menuisier, vous tombez si souvent en vous blessant que je vous conseille d'acheter tout de suite plusieurs sparadraps. »« Non, dit le menuisier, je ne tomberai plus. » Mais à peine fut-il sorti qu'il glissa, tomba et se fendit le menton. « Fichu verglas !» s'écria le menuisier en courant une fois de plus à la pharmacie. « Je l'avais bien dit, fit le pharmacien, vous êtes encore tombé. »« Non !» hurla le menuisier, « je veux rien entendre. Donnez-moi vite un sparadrap !» Le pharmacien lui en donna un, le menuisier se le colla sur le menton et rentra chez lui. Mais les autres locataires ne le reconnurent pas et refusèrent de le laisser entrer. « C'est moi, Koutchakov, le menuisier » cria-t-il. « C'est ça. Et puis quoi encore ?» lui répondit-on. Et on lui ferma la porte au nez en poussant le verrou et en mettant la chaîne. Koutchakov, le menuisier, resta un moment dans l'escalier. Puis il cracha par terre et sortit dans la rue. Pronine dit « Vous avez de très jolis bas. » Irina Moser dit « Ils vous plaisent vraiment, mes bas ?» Pronine dit « Ah oui, beaucoup. » Il tendit la main pour les palper. Irina dit « Et pourquoi vous plaisent-ils, mes bas ?» Pronine dit « Ils sont doux et très lisses. » Irina releva un peu sa jupe et dit « Voyez-vous comme ils sont longs aussi ?» Pronine dit « Oh, oui, oui !» Irina dit « Mais il s'arrête ici. Là, c'est ma jambe nue. »« Oh, quelle jambe !» dit Pronine. « J'ai les jambes un peu trop grosses, » dit Irina, « et je suis aussi large des hanches. »« Montrez voir !» dit Pronine. « Impossible !» dit Irina, « je ne porte pas de culotte !» Pronine s'agenouilla devant elle. Irina dit « Pourquoi vous mettez-vous à genoux ?» Pronine embrassa la jambe juste au-dessus du bas et dit « Pour ça ?» Irina dit « Pourquoi remontez-vous encore plus ma jupe ? Je vous ai pourtant dit que je suis sans culotte !» Pronine releva cependant la jupe et dit « Oh, c'est rien, c'est rien !» « Comment ça, rien ?» dit Irina. « C'est alors qu'on frappa à la porte. » Irina rabaissa vite sa jupe. Pronine se releva et alla près de la fenêtre. « Qui est-ce ? » demanda Irina. « Ouvrez !» répondit-on de l'autre côté de la porte. Irina ouvrit, laissant passer un homme au manteau noir et bottes montantes. À sa suite, deux militaires de rang subalterne, fusils en main, et aussi le concierge de l'immeuble. Les rangs subalternes restèrent à la porte. L'homme au manteau noir alla vers Irina Moser et dit « Votre nom ?» « Moser, » dit Irina. « Votre nom ?» dit l'homme en s'adressant à Pronine. « Je m'appelle Pronine. »« Vous avez une arme ?» demanda l'homme au manteau noir. « Non, » dit Pronine. « Asseyez-vous là, » dit l'homme en lui montrant une chaise. Pronine s'assit. « Quant à vous, » dit l'homme en se tournant vers Irina, « mettez votre manteau. Nous allons vous demander de nous suivre. »« Pourquoi faire ?» demanda Irina. L'homme au manteau noir ne répondit rien. « Il faut que je me change, » dit Irina. « Non, » dit l'homme au manteau noir. « Mais j'ai besoin de me mettre encore autre chose, » dit Irina. « Non, » dit l'homme. Irina enfila sa pelisse en silence. « Adieu, » dit-elle à Pronine. « Interdit de parler, » dit l'homme au manteau noir. « Faut-il que je vienne aussi avec vous ?» demanda Pronine. « Oui, » dit l'homme. « Habillez-vous. » Pronine se leva, ôta manteau et chapeau de la patère, les enfila et dit « Je suis prêt. »« Allons-y, » dit l'homme au manteau noir. Les subalternes et le concierge firent claquer leurs semelles. Tous sortirent dans le couloir. L'homme au manteau noir ferma la porte de la chambre d'Irina, puis il y apposa deux scellés de couleur brune. « Allez, tout le monde dehors, » dit-il. Et tous quittèrent l'appartement dont la porte claqua très fort. Je vous propose l'acquittement, une folie bien entendu, de Daniel Arms. Lorsque Volodia m'a frappé et craché au visage, je peux dire sans me vanter que je lui ai flanqué une raclée dont il se souviendrait longtemps. Ensuite, je lui ai donné un bon coup de réchaud sur le crâne. Le faire à repasser, c'était plus tard dans la soirée. On peut donc dire en effet qu'il n'est pas mort sur le champ. Je lui avais bien arraché une jambe dans l'après-midi, mais il était encore vivant, je peux le certifier. Pour ce qui est d'Andrusha, je l'ai tué, pour ainsi dire, machinalement. On ne peut pas m'en faire le reproche. Pourquoi est-ce qu'il s'était trouvé là avec Elisaveta Antonovna? Il n'aurait pas dû se montrer à la porte. On m'a taxé aussi de monstres sanguinaires, parce que j'aurais bu leur sang. Mais c'est faux! Je n'ai fait que lécher les flaques et les taches de sang. c'était juste pour effacer les traces du crime, comme on dit, même s'il ne s'agit que d'un crime sans importance. Et je n'ai pas du tout violé Elisateva Antonovna. D'abord, elle n'était plus vierge. Ensuite, ce n'était plus qu'un cadavre. Elle ne peut donc pas s'en plaindre. Elle n'a rien senti. Elle attendait un bébé, paraît-il. Je sais, c'est moi qui lui ai sorti de son ventre, ce mioche. Et s'il était mort-né, c'est tout de même pas de ma faute, non? Et je lui ai pas non plus arraché la tête, c'est son cou qui était trop fin. Il n'était vraiment pas destiné à vivre, ce mioche. C'est vrai, par contre, j'ai écrasé leur chienne sous ma botte. Mais ça, c'est vraiment du cynisme. M'accuser du meurtre d'un clébard, alors qu'il est question de 3 vies humaines anéanties, pour ainsi dire, je ne compte pas le bébé, bien sûr. Bon, j'admets qu'il y a eu dans tout ça une certaine cruauté de ma part. Mais pour tenir en crime, le fait que je me sois accroupi pour déféquer sur mes victimes, avouez que c'est le comble de l'absurde. Satisfaire ses besoins, c'est une chose naturelle. Ça n'a jamais été un crime que je sache. Je peux évidemment comprendre les craintes de mon avocat, mais je compte bien être acquitté. Ce ne serait que justice.